question. La dimension de la personne est-elle plus que son être? Autrement dit, n'est-ce pas la personne qui permet d'avoir le regard philosophique le plus profond sur la réalité humaine, plus que le regard sur l'être comme tel? Le regard le plus profond, c'est quand même l'analyse métaphysique de l'être, puisque c'est ce regard-là qui permet de prouver l'existence de Dieu. La personne, c'est le pos, c'est le comment. Comment je vis de mon être? Posez-vous la question. Comment vous vivez de votre être? Est-ce que vous le vivez comme la vache? Comment vit la vache de son être? D'avoir des petits veaux, de donner du lait. Comment le chat vit de son être? Vous voyez, ne restez pas dans l'abstrait, dans l'être. Il n'y a rien de plus concret que l'être. Tout ce qui est. Comment vit-il de l'être? Eh bien, la personne, l'homme vit de son être comme une personne. Vous voyez, c'est le pos de l'être. N'opposez pas être et personne, c'est le pos de l'être. Donc, c'est le comment de votre être. C'est le comment de cette synthèse particulière, l'autonomie, l'intelligence, la volonté, la prudence, l'art, le corps. Chacun d'entre vous, vous vivez différemment de cette synthèse. Et pourtant, il y a un mode très, un peu commun. C'est très concret. Bon, pour vous, il y en a qui sont plus intellectuels. Donc, leur synthèse personnelle a pris l'orientation de la recherche de la vérité. Comment vit un moine bénédictin? Comment vit un moine Saint-Jean? Vous n'allez pas dire, ah, il y en a un qui est intelligent, l'autre qui est moins. Non, non. Tous vivent de l'intelligence, tous vivent de l'amour, tous vivent de la prudence, tous vivent dans l'autonomie. Les six éléments, ou les sept éléments de la personne humaine, se donnent dans des synthèses différentes. La personne, c'est la synthèse. Hein. C'est la synthèse de tous ces éléments, de toutes ces parties de la personne. Mais elle est plus développée dans un contemplatif, dans un artiste, dans un homme prudent. Elle est développée différemment. Et on aurait le temps, on regarderait ça dans l'écriture. La personne d'un David, la personne d'un Goliath, la personne d'un Élie, la personne d'un prophète. Ce serait très intéressant de faire ça. Et au fond, c'est une étude théologique merveilleuse, puisque ça vous permettrait de parler dans vos sermons de la personne d'Élie comme modèle. Vous voyez, la personne, c'est l'ensemble de tous ces éléments qu'on a vus dont les synthèses sont différentes. Alors, la première chose que nous avons vue, c'est l'homme et la femme. Y a-t-il deux personnes différentes comme personnalité? La synthèse est différente. Les éléments mis en pleine valeur dans une personne, une mère de famille, une vraie mère de famille, et un vrai père de famille, ils se complètent. Ils ne sont pas identiques, ils se complètent. Et c'est pour ça, si la formation de l'homme et de la femme, la formation du garçon et de la fille devient tout à fait identique, la complémentarité sera beaucoup moins forte. On appauvrit l'espèce humaine en faisant ça. Il faut sentir ça philosophiquement. Une jeune fille a une personnalité différente d'un jeune homme. Et si vous donnez exactement la même éducation, au bout d'un certain temps, vous aurez des garçons ratés et des filles ratées. Pourquoi, très facilement, des filles qui ont de la peine à vivre, à trouver leur équilibre, s'attachent au curé, s'attachent au prêtre, au moine. Parce que elles voient dans le moine un homme qui met en valeur des valeurs spirituelles. Alors ça l'attire. Il faut comprendre ces choses-là. Oui, donc, puisque vous avez 6 éléments ou 7 éléments qui forment la personne humaine, puisque le 7e, c'est l'aspect religieux. L'homme est religieux autrement qu'une femme. C'est curieux. Et c'est très important, ça, de découvrir ça. Dans la synthèse. Alors, on a vu tous les éléments. Alors, on fait la synthèse après. Et on fait la synthèse, on voit que cette synthèse a des variétés. Oui. Alors, j'avais vu la synthèse du contemplatif. Et je m'étais posé la question, est-ce que le contemplatif homme et la contemplative femme, y a-t-il encore au niveau contemplatif une complémentarité? C'est une question très importante. Parce que, enfin, j'allais dire, les contemplatives et nous-mêmes, y a-t-il une complémentarité? On sent qu'il y a quelque chose. Une contemplative donne autre chose qu'un contemplatif. Pourquoi on ne demande pas aux contemplatives de prêcher la retraite? Il y a des contemplatives qui le font maintenant. J'ai une sœur qui a des retraites. Régulièrement, elle est prête ce four-là, en quantité. Un prêtre donnerait exactement la même chose qu'elle, il n'y aurait pas la même attraction. Et en tout bien, très bien. Oui. Et c'est ça que nous cherchons, qui est difficile à saisir. Hein, parce que c'est... Alors, la question là, la dimension de la personne est-elle plus que son être? Vous comprenez, ça n'a pas de sens. Son être, c'est sa personne. Votre être, c'est votre personne, quand même. Si vous êtes bien dans votre peau. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, alors c'est très vrai, en s'embêtant. J'étais tellement bien quand j'avais 16 ans. Après, je me suis défiguré. J'ai essayé de devenir un homme, ça ne va pas du tout. J'étais tellement bien dans ma peau quand j'avais 16 ans. On rencontre des choses comme ça. On rencontre des êtres à 18 ans qui pleurent éternellement sur leurs 16 ans. Alors vous devez... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a, le petit déclic ? Vous comprenez ? Le psychologue. C'est parce qu'il y a des heurts entre le développement de l'intelligence et le développement de la prudence. Chez certaines personnes, ça fait des heurts terribles. Elles sont deux. Alors qu'au contraire, l'intelligence doit servir l'amour. Il doit y avoir l'unité et la synthèse et la sagesse. Il y a des êtres qui resteront éternellement des artistes. C'est embêtant, ils sont moines. Alors, ils prêcheront comme des artistes, ils se rattraperont dans la prédication. Il y aura une prédication qui sont, on se dit, en prêchant, comme dommage qu'il n'est pas comédien celui-là. Vous avez, on a tous eu ces impressions quelquefois. Père Sertilange qui chez nous faisait il y avait des exercices de prédication, hein. Alors il faisait les corrections, c'était très amusant. Alors il y avait une fois, ce qu'on appelait un vieux curé, c'est-à-dire qu'il était prêtre, et il était encore très jeune, il avait 30 ans, 35 ans, et puis qu'il était entré chez nous. Il était du clergé séculier, et puis il était entré chez nous. Étant prêtre. Alors, donc, il avait prêché quand même pas mal dans sa vie. Et puis, il aimait beaucoup la prédication. Il avait du talent, du reste. Mais il s'était laissé trop prendre par le point de vue artistique et le point de vue. Et alors, le père Sertilange ne savait aucun nom. Je comprends très bien. Il ne savait aucun nom. On lui donne l'affiche des noms. Et alors, tel, frère, tel, il ne savait pas c'était quoi. Alors il entendait tout simplement la prédication, donc dans une objectivité parfaite, hein. Sans aucun élément subjectif. Alors ce prêtre, ce vieux curé, et son sermon. Le père Sertilange l'a corrigé comme si c'était un jeune novice. Quand le frère saura ce que c'est que la prédication, il ne prêchera plus du tout comme ça. Alors, on a tous éclaté de rire. Parce qu'il se présentait comme un bon prédicateur, le père Sertilange. Parce que c'était beaucoup trop élégant, c'était beaucoup trop artistique, c'était pas de la vraie prédication. La prédication, l'art disparaît devant le message qu'on doit transmettre. Et quand l'art dépasse la transmission du message, c'est pas un sermon. Et c'est ça que voulait dire le père Sertilange. Alors il a dit d'une façon qu'il dit tellement cocasse que c'est... Quand le novice sera un peu prêché, qu'il aura un peu l'expérience, il prêchera tout autrement. Alors, vous voyez, ce qu'on cherche, c'est la note dominante dans les modalités de la personne. C'est la note dominante. La note dominante, la contemplation. Chez l'homme et chez la femme. La note dominante chez l'homme prudent. Il y a des hommes prudents. Un homme prudent doit être un homme intelligent, doit être un homme volontaire, doit être un homme un peu artiste, savoir au moins goûter. Parce que si je ne savais rien entendre là, c'est triste. Toutes les notes sont présentes dans une personne humaine. Les six caractères ou les sept caractères qu'on a vus. Le septième, c'est l'homme religieux. Mais la synthèse est différente. Et vous voyez des hommes d'une personnalité d'homme prudent. On a tous rencontré dans notre vie des hommes prudents. Au bout d'un certain temps, ça vous agace un peu, parce qu'il est trop prudent. Il est forcé. Il voit trop les difficultés. Alors, il attend tout le temps le bon moment de s'engager. Il ne s'engage pas parce qu'il voit trop les difficultés. Alors, il y a une personnalité de l'artiste. Donc, vous voyez, je réponds par là à la question. Montrez que dans tous ces types de personnes, vous avez les sept éléments, mais la synthèse est différente. Pour chacun d'entre nous, du reste, nous nous retrouvons, parce que vous êtes tous une personne humaine. Vous avez l'autonomie, l'intelligence, la volonté, la prudence, l'art, votre corps et le point de vue religieux. Bon, vous avez tous ces sept éléments, mais leur synthèse est différente. Et si au milieu de vous, il y avait un bénédictin de Solesmes, parce que c'est un type bénédictin particulier, ou le père abbé de Citeaux, qui est une personne très nette, vous verriez tout de suite que la synthèse de tous ces éléments est différente. Et c'est ça qui est intéressant, je crois. Converser avec le père abbé de Citeaux, voit le moine. Quel est l'aspect dominant du moine? C'est l'homme religieux. Et tout est vu en fonction de l'homme religieux. Et l'homme religieux peut très bien... Il ne faut pas aller trop loin dans la contemplation. Autrement, il est restreint. Il ne faut pas aller trop loin dans les études. La recherche de la vérité. Quand vous parlez à un moine, un bénédictin, on le sent très bien. Il ne faut pas aller trop loin. Vous, dominicain, vous allez trop loin. Parce qu'il n'y a plus que ça qui compte. Vous avez en même temps l'art liturgique, point de vue artistique. Alors à Solesmes, on met un petit mafie, très élégant. Si vous chantez faux, ne chantez pas. Parce qu'il faut que l'harmonie soit parfaite. Alors quand vous allez chez les trappistes, chantez peu importe. Vous voyez ? L'aspect artistique va dominer. Alors qu'on dit, si vous avez le cœur, mais chantez. La liturgie implique un grand amour, plus que l'art. Et c'est vrai, quand on insiste à certains offices, on dit, c'est parfait artistiquement. Il n'y a pas de fausses notes. C'est parfait. Mais ça manque d'allure. C'est très curieux. Vous avez sept notes, et vous voyez que la synthèse est différente. Et c'est ça, cette réflexion, sur voir quelle est la note dominante pour une personnalité contemplative, masculine, féminine. Quelle est la note dominante d'un homme prudent? Quelle est la note dominante de l'homme artiste? On a tous rencontré dans notre vie des artistes. C'était, si vous voulez, pour avoir un exemple récent, ceux qui ont été à Genève, par exemple. Bon, on a vu des personnalités d'artistes. Le violoncelliste, c'est une personnalité d'artiste extraordinaire comme artiste. Parce qu'il était dans son violon. Ce violon, et lui, je peux dire. Et un artiste violoniste, tout passe à travers ça. Et un artiste, alors au point de vue dramatique, on voit très bien, tout passe. Et c'était en Grèce, on mettait le masque pour aider ça. On jouait un rôle, alors on avait le masque. La personne disparaissait dans le masque. Et c'est justement, on joue un rôle. Quelqu'un joue un rôle dans sa vie. Quand vous avez une personnalité, vous jouez un rôle. Quand vous étiez plus jeune, vous avez joué un rôle, sûrement, à un moment donné dans votre vie. Vous aviez été séduit par tel ou tel, un peu plus grand que vous, et qui jouait parfaitement ce rôle. Et vous avez imité. On imite. Dans un certain temps. Puis, le stade de l'imitation passe, et on s'en sert. Alors, la recherche, pour l'homme prudent, on voit bien quel est l'homme prudent. C'est la prudence qui est une certaine sagesse, une sagesse pratique, qui prend la synthèse de tout. Alors tout passe par là. Il n'y a plus rien comme fantaisie. La prudence, c'est quelquefois très ennuyeux. Et on peut dire, écoutez, vous êtes vraiment trop prudent, hein, engagez-vous. Non, j'attends le moment. Et quelquefois, il attend toute sa vie sans s'engager. Par prudence. Il y a l'exagération, il y a le type de la personne, et puis il y a un moment où sauf chez le contemplatif, parce que le contemplatif est solitaire. Vous ne pourrez jamais dire à quelqu'un « vous êtes trop contemplatif ». Vous direz « vous êtes contemplatif ». Donc, je ne vous demande pas un conseil pratique. Vous êtes un contemplatif, vous et tout. Vous recherchez la vérité, très bien. La vérité, et vous serez toujours très seul. La contemplation rend solitaire. Tandis que l'homme prudent, ah, pas du tout. Il est au contraire lié aux autres. Et c'est un homme qui sait ce que c'est que de vivre en communauté. Un homme prudent. Et vous voyez ça toujours. Le prieur doit être un homme prudent. Sa personnalité doit, en tant qu'il est prieur, il est prudent, il fait attention à tous ceux qu'il a sous sa coupe. Il les connaît chacun. S'il était un pur contemplatif, ça serait égal, il ne connaîtrait pas. Tandis que s'il est prieur, il faut qu'il soit prudent. Alors il doit connaître ceux qui sont là et voir jusqu'où peuvent aller sans se casser. L'artiste, alors là, selon tous les arts, un violoniste n'est pas en contrebasse. Et que vous voyez, le caractère de chacun se traduit par son instrument. C'est même très curieux, ça. Et l'artiste, il colle avec son instrument. Et le violoniste, très spécialement, parce que quand l'instrument est trop lourd, une croix, c'est pas commode, hein. C'est évident que l'orgue, par exemple, l'instrument, domine l'artiste. Hein. Tandis que le violoniste, c'est l'artiste qui domine le violon. D'une façon très, très, très spéciale. Il est dans son violon. Oui, parce que l'instrument est léger. Parce que l'instrument demande... C'est très curieux à voir ça, la manière différente chez les très grands. Or, fois, la dernière rencontre à Genève, on avait des très grands. Et c'était passionnant de voir la manière différente dont chaque artiste s'identifiait avec son instrument. Il était dedans. Il l'assume entièrement. Au contraire, il était relatif. C'est très différent comme position d'artiste. Et dans l'art oratoire, dans l'opéra, on voit combien les artistes sont différents. Il y en a qui sont faits pour le rigolo, un clown. Les artistes, c'est un clown. C'est évident. C'est un clown. La personne est clown. Et prend tout. Prend tout. Instinctivement, et instinctivement, tout est regardé par lui comme possibilité de transformer dans son art. À Fribourg, je me laissais inviter de temps en temps d'aller au cirque Kni. Parce que les étudiants aimaient beaucoup ça. Alors ils allaient là, et puis alors ils demandaient que le cours suivant en fasse un, la philosophie de cela. C'était une manière de comprendre que la philosophie nous apprenait à regarder les choses humaines. Alors il y avait une fois, c'était le cirque Kni quand même, et bon. Il a de la valeur. Alors il y avait un clown merveilleux. Il cherchait à capter la lumière. Vous voyez, c'est comment capter la lumière. Il avait inventé des tas de numéros comme ça pour capter la lumière. C'est le clown, la lumière. Alors il avait le soir, la lumière s'éteint, le matin, en plein midi, enfin, la lumière de sa vie, de la lumière. Et, bon, il captait un sensible propre, et tout passait par ce sensible propre, la lumière. C'est très intéressant parce que sa voix, ça montre la souplesse de la personne humaine. On peut passer du contemplatif au clown. Et un vrai clown est un artiste. C'est un artiste de ce métier particulier. Il est là pour vous faire rire et vous détendre. Et c'est très heureux, il y a des gens qui savent plus rire. Ils sont toujours sérieux, on a envie de mettre un clown devant pour qu'il rie. Enfin, il puisse se détendre un petit peu. Parce que le rire est le propre de l'homme. C'est le rire qui est le propre de l'homme. C'est pas la parole. Hein. Vous pouvez faire parler des singes très grands, mais jamais rire. Et un singe est toujours furieux quand il voit un homme rire. n'y a rien de tel que m'en furie le plus ces singes. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont dépassé le rire transcendant pour le singe. Là, c'est quelque chose qui le dépasse. Alors que le rire est le propre de l'homme. La mère veut avoir le premier rire de son enfant. Il a souri. Elle a deviné ça. Et elle veut avoir le premier sourire. Et quand vous le captez, oh, ça va pas très bien. Il faut vite disparaître. Et puis que l'enfant sourit à sa mère. Vous voyez, la recherche de la personne, c'est cette spécial. David était comme ça, toi. Quand il jouait, c'était tout, n'importe quel rôle qu'il prenait, il le transformait. Et ça, c'est le grand artiste. Il se fait, il entre dans cette personnalité, dans ce rôle, et c'est tout. Le petit artiste, copie. Alors ça se sent toujours, c'est pas lui. Mais alors il y a la personne et puis son rôle. Tandis que le grand artiste, le rôle c'est sa personne. Il est tellement engagé dedans et tout. Alors l'artiste, c'est celui qui transforme tout ce qu'il voit, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il aime, dans un certain personnage qu'il joue, qu'il a adopté. Et ce personnage prend toute sa vie. Et tout est en fonction de ça. Alors, ordinairement, l'artiste est plus grand dans tel ou tel rôle. C'est là où son art se manifeste le plus. Et c'est faire passer tout son génie, toutes ses connaissances et tout son amour pour jouer un certain rôle. Le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du criminel, le rôle de l'assassin, le rôle du provincial jésuite. Le provincial jésuite, c'est vraiment un type d'homme qui pousse jusqu'au bout ce qu'il a fait. Et puis, l'obéissance jésuite pour voir si vraiment il est entré à fond dans la personne Jésus, parce que ce qu'il y a de plus grand pour le jésuite, c'est l'obéissance ut cadaver, l'obéissance absolue. Pour un dominicain, ce n'est pas l'obéissance ou le cadavre qui domine, mais une contemplation de la vérité. Vous voyez, c'est au fond très important de regarder ces types de personnes. Il n'y a rien de plus concret. C'est donc la question, est-ce que de fait, la personne est plus que l'être, c'est son être. Notre personnalité, c'est notre être. Et tout ce que nous le faisons dans le génie propre de notre personne. Ce génie est plus ou moins grand, mais il existe pour chacun. Il y a le génie du pauvre. On a tous rencontré dans notre vie le pauvre. Ça. On s'est arrêté, on la regardait. Et si on avait quelque chose à lui donner, on lui a donné. Tout de suite. Le génie du pauvre, c'est d'être tellement pauvre que quand vous passez devant, vous êtes obligé de vous arrêter devant sa pauvreté. Il manifeste la pauvreté. Mais c'est ça qui est particulier. Alors, il peut y avoir un art chez le pauvre. Parce que quand vous voyez des pauvres à la sortie des messes, quelquefois c'est très mal joué. Hein. Mais quelquefois, c'est très bien joué. Et c'est très bien joué parce que c'est sa vie. C'est sa vie. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle de personne est plus parfaite? Qu'est-ce qui fait qu'une modalité de personne est plus parfaite qu'une autre? La modalité de la perfection de la personne, c'est évidemment la contemplation, puisque c'est le contenu objectif qui est plus grand. Mais toute notre personnalité dans l'artiste, c'est très bien, mais ça n'atteint jamais l'homme dans toute sa plénitude. Ça atteint l'artiste. Donc, vous voyez, il y a ratio et mode. Pour voir comment le mode va permettre à la ratio d'atteindre la finalité humaine. Et quand la modalité permet d'atteindre plus parfaitement la finalité humaine, vous pouvez dire que la personne est vraiment là le plus parfait. Qu'est-ce qui fait qu'une modalité de personne est plus parfaite qu'une autre ? La personne n'implique-t-elle pas en elle-même la notion de perfection? Non. Oui, ça implique une modalité parfaite. Une modalité adéquate à la raison. Ratio et modus. Est-ce que la personne... La personnalité parfaite est celle qui épanouit toutes les dimensions ou celle qui épanouit la dimension la plus élevée de la contemplation. C'est sûr, les degrés de personnalité, les perfections plus ou moins grandes, c'est suivant que justement la personne développe une partie plus importante de la personne. Si ma personnalité se développe entièrement du côté de l'intelligence, j'ai une personnalité qui touche la sagesse. Puisque c'est l'intelligence et l'amour qui sont reliés ensemble par rapport à ma fin. Donc, c'est nettement la personnalité la plus parfaite. Si je regarde la personnalité de l'artiste, c'est celle qui pourra se communiquer le plus facilement. Donc, il y aura un sommet au point de vue non pas perfection de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, mais perfection du côté de la communication. Vous voyez, chaque type de personne a son sommet. À ce qui, chez lui, est réalisé le mieux. Or, chez l'artiste, ce qui est réalisé le mieux, c'est la manifestation. L'artiste manifeste. Et un véritable artiste, quand il manifeste, il tient son public. Vous pourriez l'écouter indéfiniment, parce qu'il tient son public. Vous êtes toujours en admiration. Tandis qu'au contraire, celui qui n'a pas un pouce artistique, il est très fatigant. Oui. Donc il n'y a pas d'art, il n'y a pas de manifestation. Est-ce que la personnalité parfaite est celle qui épanouit toutes les dimensions? La personnalité particulière épanouit spécialement telle ou telle dimension. Et donc, selon la valeur de ces dimensions, vous aurez la valeur de la personne. Intelligence, amour, prudence, ah oui, des valeurs très différentes. Et là, il y a un ordre dans ces valeurs. En fonction que ces valeurs atteignent plus ou moins la finalité de l'homme. Un contemplatif n'a pas du tout développé sa dimension artistique. Est-il une personne parfaite? Une personne parfaite comme contemplatif. Et l'artiste, il est parfait comme artiste. Je ne lui demande pas plus. Je ne demande pas à un artiste d'être contemplatif. S'il l'est, ah, tant mieux, son art rempli de profondeur. Oui. Et le contemplatif, s'il est artiste, il y aura une communication plus parfaite qui pourra se faire.
Si cet artiste est un chrétien, il faut quand même une dimension contemplative, non?
Ah, autre chose, point du chrétien. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que même en tant qu'une personne religieuse.
Non, alors, ça revient par la finalité. La finalité du chrétien, c'est rejoindre le Christ. Vous voyez? Alors, si en tant que chrétien, il rejoint le Christ par l'amour ou par la charité fraternelle, il y aura deux types de sainteté. La sainteté, ici la personne, la sainteté. La sainteté contemplative, la sainteté de l'actif. Et alors, s'il est vraiment chrétien, son art lui servira à être plus capable d'aimer le prochain. Et son art sera entièrement saisi par sa charité fraternelle. Ce qui existe. Ou son art est entièrement pris par son amour. Sa contemplation. Alors, quel est le regard du philosophe sur le saint? Voilà. Est-ce que la personne de celui qui vit toutes les béatitudes évangéliques n'est pas plus parfaite que celle du contemplatif? Il est bien évident que la sainteté dépasse toutes perfection humaine. C'est sûr. Alors, il faut bien distinguer la sainteté, la personne. La personne surnaturelle, c'est la sainteté. Et il y a autant de sainteté que de diversité de personnes. Il y a la sainteté du clown. Ça peut exister. Parce que Don Bosco savait ça admirablement. Pour détendre, attirer, jouer le clown. Lorsqu'il s'agit du point de vue chrétien, c'est l'amour surnaturel qui peut se servir de tout. tout ce qui n'est pas péché. Et tout ce qui n'est pas péché est transformé par cet amour ou divin, charité, aimer Dieu, ou charité fraternelle.